Je fais une suite de la semaine dernière, évidemment. On a commencé une série sur l'évangélisation et suivant une perspective qui n'est pas celle de comment on fait pour aller évangéliser. C'est presque secondaire, ça. C'est-à-dire comment on fait pour rejoindre des gens avec le message de l'Évangile. Fait qu'on a, on peut toujours se donner des méthodes puis des techniques puis prendre des cours puis c'est certainement une bien bonne idée parce que c'est des outils qui nous permettent d'être peut-être plus efficaces dans la manière de dire le message. Mais en même temps, au-delà des outils qu'on a, vous avez remarqué que vous pourriez avoir beaucoup de ces outils-là. Il existe des cours, des formations dans ça, et ça ne vous fera pas évangéliser davantage en même temps. Fait que l'outil ne crée pas nécessairement la passion. Il donne peut-être des compétences, mais le phénomène passionnel, ce qui fait qu'un croyant a envie de parler de sa foi, c'est d'un autre ordre. C'est une passion qui vient d'ailleurs. Donc, la semaine dernière, on avait vu que, je vous lis la phrase, la semaine dernière, nous avons, je l'ai même dit de même, nous avons vu que ce n'est pas l'évangélisation qui ranime la santé dans une église locale, contrairement à une idée reçue. C'est pas l'évangélisation qui ramène la santé dans une église locale qui n'est pas en santé, mais c'est plutôt la bonne santé dans une église locale qui ranime l'évangélisation. L'église, une église qui rayonne, et là, on va juste revenir sur un petit point vraiment important. Quand je parle de rayonner, parce que j'ai reçu des questions cette semaine suite à cette prédication-là, des commentaires, j'en ai reçu vraiment beaucoup. Puis j'aime bien ça recevoir des commentaires en passant parce que ça signifie qu'il s'est passé quelque chose. Parce que des fois, on fait un bon message, les gens viennent dire « c'est un bon message ». Mais c'est pas utile qu'un message soit nécessairement bon. En fait, ce qui est utile, c'est que le message brasse les idées, remet en question des choses, nous met devant des contradictions, des incertitudes, ou viennent attaquer des certitudes qu'on s'était bâties sur quelque chose, et puis tout à coup, ça vient ébranler ça. Donc, une des idées qu'une personne m'a envoyée, je me dis « OK, peut-être que c'est ce qu'elle me demande comme question, ça montre qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai dit qui n'a pas été compris comme je voulais le dire. Le but de cette série-là, c'est pas de se démotiver à l'évangélisation, c'est de se motiver à le faire, mais à le faire de la bonne façon. Donc, j'estime que le ministère d'évangéliste, c'est une vocation adressée par Dieu dans son Église et que tout le monde n'a pas cette vocation-là. Donc, comment on fait comme Église pour encourager ceux qui ont cette vocation-là à être encouragés vraiment par leur Église à le faire? Et je ne recommencerai pas l'exercice, mais on parlait des gens qui ont un appel d'intercesseur qui peuvent se connecter ensemble sur l'évangéliste. Et puis, toute une église devient, à travers tous les dons que Dieu donne à son église, toute une église devient une institution qui évangélise. Mais ce n'est pas nécessaire que tout le monde ait cette vocation-là. Maintenant qu'on a dit ça, dire qu'il y a des gens parmi nous qui ont une vocation d'évangéliste, ça ne signifie pas que les autres n'évangélisent pas ou ne puissent pas saisir des occasions. Parce que ceux qui ne sont pas évangélistes, c'est certain que si Dieu ouvre une porte et si eux-mêmes sont en santé spirituelle, ils vont la prendre, la porte. Pas pour sortir, mais pour entrer. Il y a une expression, prendre la porte. Donc, on va essayer d'éclairer ça encore aujourd'hui, encore mieux. Sur la question de la grâce, je veux revenir et répéter une chose de la semaine passée sans y mettre autant de temps parce que c'est vraiment primordial. Une église qui rayonne, et ce que j'entends par une église qui rayonne, on ne parlait pas de bâtiment. Une église, c'est des gens. Donc, une église qui rayonne, et ça, c'est une autre question qui m'a été posée. Quelqu'un m'a dit, oui, mais si l'église rayonne de l'intérieur, il faut qu'elle rayonne de l'intérieur. Comment les gens vont-ils savoir si, ça, si, Ça, on a super du fun d'être ici. En quoi ça rejoint les gens? Bon, là, j'ai dit, je me suis mal expliqué peut-être sur ce point-là aussi. Quand je parle d'une église qui rayonne de l'intérieur, je parle des gens. Maintenant, si on est richement nourri, béni, édifié, encouragé, apprécié, aimé, bref, tout ça, l'Église, notre Église rayonne, mais rayonne partout là où on est. C'est ça l'idée. Donc, je voulais enlever que c'est pas une question de lieu, c'est une question de corps, le corps de Christ. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'on est en santé ou qu'on n'est pas en santé. Et l'Évangile de Jésus-Christ est directement relié à beaucoup, beaucoup d'éléments, mais j'en sors juste trois. Grâce, pardon, amour de Dieu. Grâce, pardon, amour de Dieu. On ne peut pas témoigner l'Évangile si ces éléments-là ne sont pas pleinement intégrés dans nos vies. Pourquoi? La grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Christ qui nous sauve gratuitement. On peut saisir cette réalité-là de façon académique, on peut connaître la théologie de la grâce par cœur, qui fait que quand on la répète, ça peut être complètement mort. Pourquoi? Parce que c'est un savoir académique, mais c'est aussi une réalité dans nos vies. Il faut que la grâce de Dieu, on ait reçu pleinement cette grâce-là. Et je dirais, recevoir la grâce de Dieu, ça peut sembler simple, mais ça nécessite qu'on reconnaisse la condition de pécheur dans laquelle on est. Donc, on vit de la grâce de Dieu en étant dans une pleine reconnaissance de notre condition de perdu. La grâce, elle est donnée à des perdus. Dieu est venu sauver ce qui était perdu. Donc, si on a de la difficulté à reconnaître notre état pécheur, on a déjà un problème avec la grâce. Mais si on a reçu la grâce d'un perdu, on se sait vraiment pardonné par Dieu, on applique aussi la grâce dans nos relations avec les autres. La grâce devient, si j'ai été pardonné, je ne peux que plus aisément pardonner et faire grâce à ceux qui m'ont offensé. Donc, c'est pour ça que la grâce et le pardon travaillent vraiment ensemble. Et l'amour de Dieu se mélange à tout ça. Donc, comprendre et saisir pour soi-même l'amour de Dieu, et ce n'est pas tout à fait simple parce que, encore là, ça peut être très académique, notre compréhension de l'amour de Dieu. Mais ici, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je saisis vraiment que je suis aimé de Dieu? Et cette réalité-là de l'amour de Dieu veut que j'accepte que Dieu aime quelqu'un de pas aimable, nécessairement qui s'appelle moi. Donc, notre évangélisation, notre témoignage dépend directement de la vitalité de ces éléments-là dans nos vies, parce que ces éléments-là sont l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas autre chose que ça. Donc, il y a une énorme différence entre répéter les choses qu'on connaît et vivre des choses qu'on connaît. Ces choses-là ne sont plus juste un savoir académique, mais deviennent comme esprit et vie. Vendredi soir, j'étais à Québec et j'ai soupé avec un couple que certains connaissent ici, pasteur Marcus Hosser. Qui le connaît? Pasteur dans le coin de Saint-Anne-des-Monts. C'est lui et sa femme, des Suisses allemands. Et puis, on est à Québec, puis bon, on s'en va le lunch ensemble. Et puis, j'étais fasciné par ces gens-là parce que ça, c'est des gens qui ont tout misé sur le Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Et j'étais assis devant eux, puis on jasait. Ils me racontaient leur vie. Ils me racontaient, parce qu'eux autres, ils viennent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils sont nés en Suisse, mais ils ont grandi là-bas. Ils se sont connus sur un terrain missionnaire à l'autre bout de la planète, quasiment en Australie, puis ils se sont retrouvés ici, puis ils me racontaient un peu comment Dieu les a dirigés d'une place à l'autre. Et à chaque fois qu'ils parlaient de Jésus, Mme Hosser, il y avait comme un regard pétillant dans ses yeux. Elle ne parlait jamais d'un Jésus académique. Elle me racontait des choses du Jésus vivant dans sa vie. Jésus a fait ceci, il a fait cela, il a pourvu de telle façon. Ils ont vécu par la foi, souvent sans revenu trop clair. Fait que autour, ils me racontent leurs histoires, fait que c'était assez édifiant. Puis à un moment donné, ils me posaient des questions sur la mienne. Puis encore là, je leur contais des affaires qui nous sont arrivées à moi puis ma femme, puis les provisions de Dieu, comment c'est venu. Et ils m'écoutaient, puis il y avait ce regard éblouissant. T'sais, je leur racontais des histoires, puis à un moment donné, ils partaient à rire tous les deux, ils se regardaient, puis c'était comme... ils étaient en action de grâce. Et je me disais, wow, c'est des gens qui rayonnent. Et ce rayonnement-là, c'est comme pas eux, c'est comme Jésus-Christ en eux. Quand notre vie est centrée sur Jésus-Christ, ben Jésus-Christ, à l'intérieur de nous, va rayonner à travers de nous. C'est ça, l'évangélisation. On rayonne le message de l'Évangile, on rayonne sa grâce, on rayonne sa bonté, son pardon, son amour, on rayonne. Et écoutez, qui se souvient des premiers temps où on accepte Jésus-Christ dans nos vies, là, et qu'on maîtrise super mal la théologie du salut, on va évangéliser, puis ça marche. Pourquoi? Parce qu'on est débordant de quelque chose. On vient de découvrir une richesse, et tout à coup, ça veut sortir par les pores de la peau. On en parlait. On n'avait pas peur d'en parler. Ça n'avait aucun rapport que les gens puissent penser que c'est ridicule. On s'en balançait comme dans l'an 40. On voulait le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard, il n'y a plus rien qui rayonne? Donc, c'est un petit peu l'idée du message aujourd'hui, que l'évangélisation, vous pourriez suivre la méthode que vous voulez, on pourrait se donner les projets qu'on veut, mais ce n'est pas ça qui va faire de l'évangélisation un succès. Ce qui va faire le succès de l'évangélisation, c'est la santé spirituelle dans laquelle on se trouve. Donc, je ne peux annoncer une grâce de Dieu que je ne reçois pas moi-même et que je ne suis pas capable de servir aux autres, ni même annoncer le pardon si je ne sais plus pardonner aux autres, ni l'amour de Dieu dont je ne peux pas parler si je ne reçois pas cet amour de Dieu pour ma vie. Donc, l'évangélisation, c'est un contenu vivant en dedans de nous. S'aimer les uns les autres comme Christ nous a d'abord aimés est le moyen par lequel Dieu se rend visible par son Église aux gens qui vivent autour de son Église. Et là, on va relire le texte, Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Donc, je répète l'idée ici. Ce que Jésus dit, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'aperçoit pas tout de suite si on ne prend pas le temps de lire lentement le passage, c'est que ce verset-là nous dit que la façon avec laquelle Dieu, qui vit en nous, se rend visible aux gens de ce monde, c'est à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres, mais qui est son amour à lui. Et non pas un amour humain, circonstanciel, mais l'amour de Dieu. Donc, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'insiste toujours sur ce point-là. Comme je vous ai aimé, parce qu'il ne nous a pas aimés comme nous, on s'aime naturellement. On s'aime de façon circonstancielle. On s'aime quand les circonstances favorisent qu'on s'aime. Mais Jésus-Christ ne nous a pas aimés de cette façon-là. Il nous aime même quand on lui est défavorable. Son amour n'arrête jamais et sans limite pour nos vies. Il nous relève, il nous pardonne 7 fois 77 fois par jour. Donc, quand Jésus dit de nous aimer les uns les autres, il nous amène ailleurs que dans notre amour naturel. Et là, la vérité de cette idée-là, c'est que si vous vous aimez de cette façon-là, les gens vont me voir dans vos vies. Ils vont me voir parce qu'ils vont voir cet amour qui est le mien. Donc, vous devenez des témoins de l'amour de Christ les uns pour les autres. C'est de l'évangélisation, ça. Et je suis sûr, parce que ça m'est arrivé, mais je suis sûr que c'est arrivé à des gens au milieu de vous ici, là. Y a-t-il des gens qui sont allés vous voir un jour pour vous dire, « T'as quelque chose, toi, que je vois pas chez les autres. » Y en a-t-il qui ont déjà vécu ça? Pourquoi? Des fois, vous n'avez même pas eu à dire que vous étiez chrétien et ça se voyait. Ce n'est pas juste une question que vous étiez du bon monde. Parce que du bon monde, non-croyant, il y en a plein aussi. Du monde généreux, il y en a plein. C'est cette autre chose qui s'appelle Jésus-Christ en vous. Si vous êtes en santé, spirituellement parlant, Christ se montre à travers vos vies. Incidemment, les gens ne se tourneront pas vers Christ parce qu'ils nous trouvent génial et bon, mais bien parce que malgré qui nous sommes des êtres fragiles capables du pire, ils voient autre chose, l'amour de Dieu, par lequel le Père révèle la pleine réalité de son Fils Jésus-Christ à travers nos vies. C'est fantastique. Donc, la culpabilité qui vient dans la vie de beaucoup de croyants, parce que évidemment il y en a qui se sentent coupables de ne pas évangéliser, qui aimeraient ça pour avoir ce don-là, on dit hey, « moi, je n'ai jamais conduit personne à Jésus-Christ », c'est ou soit un problème de mauvaise santé spirituelle, mais c'est aussi peut-être un problème de vocation. Si ce n'est pas votre vocation d'être un évangéliste, arrêtez de vous sentir coupable. Vous êtes peut-être un intercesseur et peut-être que votre intercesseur va être la raison de beaucoup d'âmes sauvées par les évangélistes de votre Église. Donc, plutôt que de perdre du temps à se sentir coupable, perdons notre temps à trouver notre vocation. Tous les moyens avec lesquels on peut servir dans le corps de Christ pour avantager que le message sort. Donc, qu'est-ce qui nous fait parler dans la vie? Je vous pose cette question-là. Qu'est-ce qui nous fait parler de quelque chose dans la vie? L'abondance du cœur. Autre chose? Quand c'est bon. La compassion? Ah, la passion. Oui, oui, la passion. Ben oui. Connaissez-vous le produit Matol? Bon, moi, je ne suis pas un vendeur. Et il y a à peu près, ça doit faire 20 ans, un peu plus que 20 ans. C'est M. Lorrain, d'ailleurs. Hein? M. Lorrain qui avait amené ça ici. Du Matol. C'était des bouteilles blanches avec un produit noir. Tu buvais ça le matin, puis ça. Ça réglait tous tes problèmes. Et si tu n'avais pas de problème, ça t'en donnait. Parce que je me souviens que Benoît Beaulé, tu sais, qui était hyper actif, lui, il en a pris, puis à un moment donné, il m'a dit il faut que j'arrête. Il dit, c'est trop. Je ne sais pas s'il est là, Benoît, si tu te souviens de. Es-tu là, Benoît? Non, pas là. Il m'avait dit, faut que j'arrête. Il dit, ça m'énergise trop. Fait que ça marchait, ma Matol. Fait que moi, à un moment donné, M. Lorrain, il m'approche. J'étais au Saguenay. Puis, j'avais pas beaucoup de revenus. Pasteur, j'avais une petite paye de rien. Puis, j'étais logé d'un petit local. Fait que, hey, pourquoi tu ne vendrais pas du Matol? Ça va t'aider, tu sais. Et puis, je dis, ben oui, OK, on va vendre du Matol. Écoutez, je ne sais pas en fait si le produit marchait. Moi, j'en prenais, je ne voyais aucune différence, ça ne faisait rien. Mais je faisais un revenu, moi, avec ça. Et là, je suis devenu hyper actif dans la communication de l'importance du Matol dans ta vie. Vous savez, quand il y a un intérêt. Wow! OK. C'était ça. Je sais pas si ça existe encore, mais je vendais du Matol, j'en parlais à tout le monde. Et puis, quand tu es pasteur, tu fais de la cure d'âme aussi. Et puis, quand quelqu'un venait me voir au bureau, j'ai un problème. Matol. J'ai un problème avec ma femme, Matol. Et C'est ça, la passion. C'est passionnant, mais il y a des intérêts personnels là-dedans. Mais qu'est-ce qui nous fait parler? C'est ça, c'est la passion. Il y a des intérêts personnels humains quand on vend des produits. Mais dans l'évangélisation, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous fait parler de Jésus-Christ? Ou qu'est-ce qui fait que vous vous taisez au sujet de Jésus-Christ? Là est toute la question. Donc, qu'est-ce qui nous fait nous taire? Parce que tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui nous fait parler. Mais là, qu'est-ce qui nous fait nous taire? Pardon? Je n'entends pas le mot, là. L'opprobre, la honte, oui. Le rejet, la crainte. La déception. Trahison, peut-être. La paresse. Moi, je vous suggère que ce qui nous ferme la bouche, c'est le manque de vie, le manque de vigueur, la familiarité, et probablement la perte de la grâce de Dieu dans nos vies, la perte de notre relation avec ce message-là. Peut-être qu'avec le temps, on a appris à retenir la faute des gens. Avec le temps, on a appris à haïr. Peut-être qu'on a appris à s'haïr et à ne plus recevoir la grâce pour soi-même. Donc, on n'est plus gracieux envers les gens. Peut-être que ces valeurs-là qui étaient tellement importantes, qui sont la base du message de l'Évangile, si ça ne vit plus en nous, ben on se tait. On n'a plus de message, on n'a absolument plus rien à dire. Donc, écoutez, que dire si c'est notre cas? Repentons-nous, mais attention. C'est la première fois que je vois un pasteur qui parle de repentance avec un sourire. Ça doit avoir l'air étrange. Ce que j'entends par repentance ici, c'est pas repentance au sens de regretter l'état dans lequel vous êtes. Pour moi, regretter, c'est presque une perte de temps. Se repentir, ça veut dire revenir à quelque chose. Et si vous pensez que c'est ce qui se passe dans votre vie, c'est que vous avez perdu cette vitalité en Jésus-Christ parce que vous avez perdu ce rapport à la grâce, à l'amour de Dieu dans vos vies. Se repentir, ça veut dire changer d'idée, revenir à. Recommencer votre relation avec Dieu. Recommencer vos temps dans la parole. Recommencer à lui parler au Seigneur. Recommencer à vivre de cette vie. Donc, c'est repentez-vous dans ce sens-là. Revenez à ce qui va vous redonner de la santé et tournez en même temps dans Éphésiens chapitre 3. C'est souvent fascinant le nombre de passages où l'apôtre Paul nous parle de l'amour de Dieu. C'est pour ça que je dis, si on se repent, on se repent de ce qu'on oublie, notre premier amour. C'est ce que Paul disait à la lettre à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, verset 4. Il dit, « J'ai contre toi que tu as oublié ton premier amour. » On entend souvent ce texte-là dire « Tu as oublié d'aimer Jésus. » Ton premier amour, c'est l'amour que tu avais pour Dieu. Mais c'est pas ce qu'on croit ici. Le premier amour, c'est l'amour de Christ pour nous. C'est lui qui nous a aimés le premier, nous dit l'apôtre Jean. Maintenant, la lettre à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, parle de l'amour. Et curieusement, avez-vous déjà pensé que si vous vous intéressez à cette église de l'Apocalypse, d'Éphèse, d'aller lire la lettre que Paul avait écrite longtemps avant cette même église? Donc, l'église à laquelle l'apôtre Jean dans l'Apocalypse parle, Éphèse, Jean envoie une lettre à une église fondée par Paul. Donc, on voit là que quand Jean écrit ça dans les années 90, c'est 30 à 40 ans après Paul. Et Paul leur avait effectivement aussi adressé ce problème. Donc, Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19, on va le lire dans la version Semeur. Paul disait qu'il priait pour les Éphésiens, puis ici, à partir du verset 16, il leur dit, « Voici ce que je lui demande. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » l'Esprit Saint, selon la Paul qui écrit à Tite au chapitre 3, le Saint-Esprit, c'est celui qui régénère. On est régénéré par le Saint-Esprit. La nouvelle sorte de vie qu'on a reçue en Jésus-Christ fait en sorte que Jésus-Christ nous habite et c'est le Saint-Esprit qui nous a régénérés à cette nouvelle sorte de vie. Donc, je suis en train de vous dire que Christ habite en nous, corporellement en tant qu'on est un corps, donc il est la tête du corps de son Église. Donc, dans cette dimension-là, Christ habite son Église, mais il nous habite chacun d'entre nous aussi qui sommes ses enfants. Et celui qui vous habite, on ne le maîtrisera jamais. Si vous pensez à la dimension de l'univers, juste pour vous donner une idée de la dimension de ce Dieu-là qui habite en vous, donc qui se réduit à être une vie en nous, est à la fois le Dieu qui a créé l'univers. Donc, si vous pensez à l'univers, on pense que l'univers aurait quelque chose comme 13,5 milliards d'années-lumière de son centre jusqu'à son extrémité. On peut multiplier ça par deux parce que c'est 13,5 milliards de l'autre côté. Et ça, ce n'est pas des kilomètres, c'est des années-lumière. Donc, c'est la vitesse que parcourt la lumière, 300 000 kilomètres à la seconde. Donc, imaginez un faisceau de lumière qui décolle de chez vous, qui voyage à la vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde, c'est sa vitesse, pendant 13 milliards d'années. Imaginez la distance. C'est énorme. L'univers connu. Et là, les astrophysiciens se disent, après, il y a quoi après? Il ne peut pas rien avoir après. Mais il peut avoir plus de matière peut-être, mais ça finit-tu là? Y a-tu là un mur qui est les confins de l'univers? Et puis après ça, ça peut-tu exister rien? Parce qu'il me semble que rien, c'est encore du vide. Non? Donc, c'est comme quelque chose avec rien dedans. On peut s'entendre là-dessus. Et ce rien-là est à l'infini. Je sais que nos cerveaux ne peuvent pas capter ça. On peut juste se le dire. Mais on ne peut pas le saisir. Mais c'est comme... Donc, cette dimension-là, ce n'est pas la dimension de Dieu. Ça, c'est son chalet. C'est ce que Dieu a créé. Lui transcende cette création. Donc, vous avez ça, peut-être des chalets, vous autres, c'est la place que vous allez des fois. Mais c'est pas chez vous, ça. Donc, l'Écriture nous apprend que Dieu habite au-delà de cet univers. Donc, dans une autre dimension, dans lequel l'univers matière qu'on connaît, c'est peu de choses. Donc, imaginez l'endroit où on s'en va. Passer l'éternité. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai souvent eu l'impression que je m'ennuierais dans l'éternité. Parce que je me disais, je m'ennuie ici, moi. Tu sais, je fais quelque chose, ça, je me fatigue, j'ai envie de faire d'autres choses. Je fais d'autres choses, je me fatigue, il faut que je trouve d'autres choses. Puis là, je me dis, mais au moins, je me dis, OK, je vais mourir un jour, ça va finir, ce niaisage-là. Et là, je me dis, et là, il me promet la vie éternelle. Puis des fois, je me dis, ouais, mais ça me semble une mauvaise nouvelle de vivre ça pour l'éternité, de cette année. Mais dans l'éternité, on ne se tannera pas. Mais en même temps, on va rentrer dans une dimension qui est absolument indescriptible. Et plus j'y pense, plus c'est vraiment une bénédiction. Donc, ce Dieu-là qui habite ce que Paul, ce que les apôtres appelaient une lumière complètement inaccessible, et j'utilise le mot « lumière », habite en vous. Et on est à peu de choses près qu'à travers nos vies, les gens le voient. Il nous a fait la grâce d'être ses témoins. On ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Lui le mérite, puis il a décidé de mettre ce mérite-là à notre compte. C'est phénoménal. Donc, continuons à lire le texte. « Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, à la mesure de ses richesses à lui, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » Vous ne trouvez pas que ça ressemble à l'autre texte de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres », à ceci, ils vont voir que, bon, « Que le Christ habite dans votre cœur par la foi enracinée et solidement fondée dans l'amour, encore l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé, profond. » Les dimensions au-delà de l'univers. Son amour est de toutes ces dimensions-là. Donc, ce n'est pas un peu d'amour, là. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça nous habite. Vous ne pouvez pas demander au Seigneur, fais que ça vienne m'habiter. Le dépôt est complètement déjà présent dans nos vies. Donc, qu'est-ce qui fait que ça reste caché dans les bas-fonds de nos cœurs puis que ça s'illumine pas plus qu'il faut? Bien, c'est une question de santé spirituelle, c'est une question de culpabilité, c'est une question de peut-être pas croire à sa grâce pour nos vies, de pas croire à son pardon complet, de pas en vivre pleinement. Et on sait qu'on en vit pleinement, je suis fatiguant à répéter ça. Le mécanisme est simple. Je sais que j'ai connu pleinement le pardon lorsque j'ai le pardon facile pour les autres. C'est clair, si j'ai pas le pardon facile pour les autres, c'est que j'ai un problème à croire le pardon de Christ pour ma vie. Donc, efforcez-vous pas d'abord de pardonner les autres, efforcez-vous d'abord de saisir le pardon dont vous êtes l'objet. Donc, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Si vous croyez, si vous vous croyez indigne, bon, quand on fait de la cure d'âme, c'est une des choses qu'on se rend compte, c'est qu'on est tous une gang de chrétiens, on se côtoie, on est caché comme à l'intérieur de nous, et chacun, on est porteur d'un certain nombre de petits drames ou d'énormes drames qui nous ont défiguré la vie. On peut avoir été victime de toutes sortes d'injustices, d'agressions, de toutes sortes dans nos vies, puis ça nous a démoli la vie, puis on est resté affecté à cause de ça. On a peut-être été un agresseur aussi. C'est moins facile à dire, mais ça nous débâtit la vie aussi, de toute façon. J'ai souvent vu aussi des jeunes, des ados, qui vont pas bien dans leur tête parce qu'ils ont l'impression d'être les seuls à être mal pris comme ils sont. Quand on est plus vieux, on a ces mêmes problèmes-là, mais on a des outils pour dealer avec ça. On connaît plus peut-être la grâce de Dieu, puis on est capable de... Mais j'ai vu des jeunes qui ne comprenaient pas que les pensées impures qui leur venaient dans la tête se demandaient d'où ça venait. Ou des pensées violentes, ou des passions de toutes sortes. Tendances sexuelles, des attirances homosexuelles, des tentations d'agression de toutes sortes. Et quand tu as 10, 11, 12 ans, puis tu as ça dans ta tête, ben tu vas pas bien. Tu ne sais pas à qui aller parler de ça. Et quand tu regardes les autres, tu as l'impression que les autres ne vivent pas ça et que tu es tout seul pris avec ça. Et ce qu'il faut leur dire souvent, c'est « Non, non, tu n'es pas tout seul. On est tous pris comme ça. Le péché nous a tous défigurés et il nous a tous rendus étranges. Étranges au point qu'on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans nos têtes et tout ce qui passe. Ni on ne sait pas pourquoi c'est là, ni d'où ça vient, c'est-tu le malin, c'est-tu nous, c'est quand même assez terrible. Donc, beaucoup de croyants grandissent avec une impression d'indignité d'eux-mêmes. Et c'est comme s'ils se disent en eux-mêmes, « Moi, je ne peux pas marcher avec Dieu. Ce que j'ai dans ma tête, c'est trop impur, c'est trop sale. » Et maintenant, est-ce qu'on est trop indigne pour marcher avec Dieu? Dans notre condition humaine, oui. C'est même pas en luttant contre notre indignité qu'on va s'en remettre. C'est en acceptant notre indignité au regard de la croix de Christ. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour des vrais pécheurs avec tout ça dans leur tête. C'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas juste mort pour qu'on arrête de fumer la cigarette. J'entendais des témoignages de gens qui... La grosse affaire dans leur vie, c'est qu'ils ne fumaient plus puis ils ne sacraient plus. Tant mieux, là, mais le problème du péché est tellement plus grave et tellement plus profond que ça. Donc, marcher avec Dieu, c'est d'avoir cru que malgré notre sentiment d'indignité, Jésus-Christ a décidé qu'on allait être des porteurs de lumière en son nom. C'est fantastique. Donc, on saisit l'amour et la grâce de Dieu, puis par la foi, on décide de porter cette lumière, on décide d'accepter, en fait, qu'on est porteur de cette lumière, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est la bonté de Dieu. Tournez dans l'Évangile de Jean, on va lire 2-3 versets avant la fin, où le point commun de ces trois textes-là, c'est le mot « lumière ». Donc, si on parle d'être une église qui rayonne, vous aurez compris qu'on ne rayonne pas parce qu'on devient du bon monde nécessairement, mais on rayonne par une lumière qui vient d'ailleurs, qui est celle de Christ à travers nous. Et l'apôtre Jean le dit tellement clairement. Verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière. » 1 Jean 1,9. Donc, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, donc elle, la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, on parle toujours de la lumière, là, oui, à ceux qui croient en son nom, elle s'appelle comment cette lumière? Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle n'a pas donné le pouvoir de ne plus être un pécheur, de devenir une super bonne personne par soi-même. Ce n'est pas une lumière qui attend dans le parking dehors en disant « commence par t'améliorer, puis après ça, je viendrai voir si je veux t'habiter ». Non, non, non. Cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, peu importe comment vous vous sentez, peu importe ce qui se passe dans votre tête, ce n'est pas de vos affaires si Dieu a décidé de faire de vous sa demeure. Donc, plutôt que de vivre dans tout l'espace d'indignité que votre vieille nature, votre chair produit, on apprend à vivre en relation avec cette lumière. Tournez dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9, qui dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. L'apôtre Paul n'est pas en train de suggérer que vous êtes par vous-même la lumière, mais vous êtes lumière par le Seigneur en vous. Vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est lui la lumière, c'est toujours lui qui reste la lumière. Et ça, c'est important parce que la nuance importante à garder ici, c'est qu'il y a aussi un évangile qui prétend qu'on devient ça. Hein? Briller, vous autres, là, tu sais. Comme si on devait briller. Jésus est un peu en arrière, si nous autres on brille, on va finir par leur parler de Jésus. Mais non, brillez pas, laissez Jésus briller. Bon, ça va vous rendre brillant aussi. 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, et là c'est Pierre, donc Jean, Paul et Pierre, les trois utilisent la même image. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. À quoi? À son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, Pierre a dit la même idée. Vous avez obtenu miséricorde. Vous ne méritez pas d'obtenir miséricorde, mais vous l'avez obtenu pareil. Dieu vous a transporté d'un royaume à un autre. Il n'a pas forcément demandé la permission. Il le fait par pure grâce. Donc, pourquoi on continuera à se torturer dans toutes sortes de culpabilités concernant ce qu'on est dans la chair? Donc, pourquoi on ne s'investit pas plutôt à trouver nos appels, à ramener Jésus à être le centre de nos vies? Parce que c'est le piège dans lequel on tombe tous, c'est qu'on finit par s'occuper tellement de soi-même, de nos propres intérêts, que ce soit nos finances, tous les besoins, tout est centré sur se bâtir quelque chose. Nos maisons, nos babelles, nos autos, nos voyages, nous aussi, nos ça, nos placements, nos retraites. Et c'est comme si Jésus est bien important pareil, il est comme juste là, là. Il est là, Jésus, là. Mais là, c'est comme si on disait, Jésus, tu sais que je t'aime, là, bouge pas, reste là, là, je m'occupe de ça en ce moment, là. Je veux régler ça, là, tu sais, je veux sécuriser ça, là, moi. Et quand on aura réglé ça, on t'en revient. Tu sais, bouge pas, va-t'en pas, s'il vous plaît, va-t'en pas. Puis il reste là. Mais le problème, c'est que s'il reste là, il est plus central. Fait que pendant qu'on bâtit nos vies, on se fait voler du temps ici. Toutes sortes de raisons, de besoins matériels qu'on s'invente, qu'on n'a pas nécessairement besoin. Et on ne rayonne plus rien. La force de votre témoignage, et on est toujours en train de parler d'évangélisation quand on dit ça, là, la force de votre témoignage, ce n'est pas simplement d'avoir lu beaucoup de livres et de maîtriser académiquement le message du salut et de savoir comment le donner par les bonnes étapes. Ça, c'est un outil indispensable, le contenu. Mais la force de votre témoignage, c'est aussi ce que par la foi, vous avez vécu avec lui. Quand vous parlez à des incroyants, avez-vous quelque chose à raconter que Jésus a fait dans votre vie? Un Jésus agissant. Tout à l'heure, je vous ai fait demander... Je vais poser la question, qu'est-ce qui nous fait parler? Et je vais terminer sur cette idée-là. Beaucoup ont dit, c'est la passion, c'est parce qu'on y croit. Mais qu'est-ce qui nous passionne? Pourquoi certains sont passionnés de parler de Jésus? Parce que si Jésus est central dans ta vie, il va probablement faire bien du ménage, il va mettre peut-être plein d'affaires dehors qui ne sont pas prioritaires. Tu vas peut-être vivre avec moins de moyens, mais tu vas peut-être le voir davantage pour voir tes besoins. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand j'évangélise, parce que je ne suis pas tout à fait un excellent évangéliste, mais quand Dieu m'ouvre une porte, je ne commence pas par dire aux gens... Point A, reconnaître tes pécheurs. Point B, reconnaître Christ est mort pour toi. Puis point 3, on va prier ensemble là-dessus. Puis je suis pas capable d'évangéliser comme ça. Règle générale, je suis plutôt celui qui va dire, regarde, je vais t'expliquer comment Dieu, dans ma vie, s'est manifesté de façon concrète des fois. Moi et ma femme, puis je raconte ça, puis nombreux parmi vous qui vivez des affaires de même, comment Dieu, des fois, a pourvu de façon spectaculaire à des besoins que juste lui et nous savaient. On a vécu ça à plusieurs reprises. Et la raison pour laquelle on vivait ça, c'est parce qu'il manquait des choses. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas y payer ces choses-là, on ne pouvait pas les acheter, on n'avait pas ce qu'il fallait. La faiblesse et certaines détresses sont peut-être la meilleure façon pour Dieu de se révéler davantage à nous. Mais nous, le piège dans lequel on tombe, c'est s'éloigner des détresses en se donnant tous les moyens pour ne pas tomber dans aucune détresse. Fait que ça fait un Jésus mort et des richesses en abondance. Alors que accepter les situations où on manque, c'est permettre à Jésus et à Dieu de se manifester et de rentrer dans cette fameuse promesse qui est tellement importante dans Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice centrale dans ta vie, ça. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, pourquoi toutes ces choses, on les met centrales et qu'on met Dieu à côté, alors qu'on tataouine sur ces choses-là tout le temps? Et entre-temps, on perd notre vie, notre relation, notre santé avec Dieu. On s'en va absolument nulle part. On n'a rien à dire sur Dieu. En remettant Dieu au centre et l'Évangile au centre, on se redonne, on se replace dans une position pour qu'il agisse. Ça vient nourrir notre vie, notre joie, notre bonheur, notre plaisir, l'amour de Dieu dans nos vies. Ça replace notre témoignage. Et on vit plein de choses avec lui dans lesquelles Dieu se manifeste de toutes sortes de façons. Et là, tout à coup, on a quelque chose à dire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se tait? C'est qu'on n'a rien à dire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle? C'est qu'on a quelque chose à dire. Et si on a quelque chose à dire sur lui, c'est parce qu'on est en train de vivre quelque chose. Donc, on n'est plus dans la culpabilité de dire, il faudrait que j'évangélise, il faudrait que j'en parle plus. Non, tu te dis plus ça, tu te rends pas compte que tu es en train de dire parce que il y a tellement de choses merveilleuses à dire. Que tu l'aies dit. Amen. Merci, Seigneur, de bénir abondamment ta parole, Seigneur. Et ma prière pour nous tous, moi y compris, c'est que tu nous réinvites dans ta présence chaque jour, chaque matin, dans ta parole. Qu'est-ce que c'est que cette affaire qui fait qu'on n'a plus le temps de prendre du temps avec toi parce qu'on est trop occupé à réussir nos vies de toutes sortes de façons? Alors, Seigneur, réinvite-nous dans ta présence chaque jour, le matin, le soir, dans ta parole, dans ta présence, dans la prière. Rebâtir une santé avec toi, Seigneur. S'il y en a parmi vous qui n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans vos vies comme sauveur, ce matin, vous avez l'opportunité de donner votre vie à Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici suivant le dessein éternel de Dieu. Alors, on va prendre 30 secondes, une minute. Levez-vous debout, on va juste prendre une minute en silence, mais si tout le monde veut bien se lever. Alors, si vous appartenez pas à Jésus-Christ, c'est entre vous et lui maintenant. Approchez-vous de lui. Confessez votre condition pécheresse. Dites-lui, Seigneur, lave-moi, pardonne-moi, purifie-moi de toute iniquité, de tout péché ce matin. Et merci pour ton salut. Prenez le temps de lui parler ce matin.